cher Albert. Merci beaucoup pour ta compréhension d'hier. Écoute, on apprécie beaucoup. On était sur un gros dossier hier. On laissait la parole aux hommes pour s'ils s'expriment. Et aujourd'hui, ben, tu as toute la place pour nous parler, donc de nous donner tes conseils pour bien partir la saison horticole. On a tous très hâte d'aller jouer dans la terre. D'ailleurs, j'en profite pour donner tout de suite nos numéros aux gens, 514-790-9850, pour poser des questions à notre horticulteur Albert Mondor. Vous pouvez également faire le 1-866-790-9850. Bonjour Albert.
Bonjour Isabelle.
Bon, mais là, là c'est parti pour vrai, là, parce que c'était parti un peu au mois d'avril. On a eu beaucoup d'espoir. Là, il y a eu un refroidissement ouais. surprenant qui a même surpris, je pense, tout ce qui était la flore, les arbres et tout. Ils n'étaient plus sûrs de vouloir sortir, les bourgeons.
Oui, effectivement. Mais ça arrive presque à chaque printemps. Hein. On a toujours des périodes plus chaudes, des périodes où, soudainement, la température revient près du point de congélation. Mais ça va, là, la plupart des vivaces ou des bulbes qui sortent activement sont tout à fait adaptés à ce genre de situation-là. Donc, il faut pas craindre. Les tulipes fleurissent quand même s'il y a des périodes plus froides. Il n'y a pas de souci. Par contre, si on plante des plantes tropicales comme des tomates trop activement et qu'il y a des périodes plus froides, ça, c'est pas très bon. Ça peut hypothéquer la croissance et le développement de nos tomates et voire même les endommager sérieusement, là, au point de les tuer dans certains cas.
Ah oui, donc qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? Là? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au cours des prochains jours?
Bon, alors comme il y a encore des risques de gel, c'est encore possible qu'il y ait des gels dans certaines régions là, à la mi-mai, ben, il faut être patient, on doit attendre pour planter toutes les plantes tropicales. Donc les annuelles tropicales, comme par exemple les pétunias, les légumes tropicaux, les tomates, les aubergines, les poivrons, les concombres, il faut attendre. À la toute fin de mai, même dans la grande région de Montréal, aux alentours du 20 mai, là, 25 mai, puis dans les régions un peu plus nordiques, ben, on va attendre au début de juin pour planter ces végétaux-là au jardin. Par contre, on peut, même en fin de semaine, déjà dans les prochains jours, on peut planter la plupart des vivaces, la plupart, pivoine, iris, tout ça, ça peut être planté. On peut planter aussi la plupart des arbustes, des arbres aussi, c'est possible de le faire. Puis si on veut absolument travailler au potager, ben, on va se retourner vers les légumes racines. Donc, les radis, les carottes, les pommes de terre, tout ça peut être mis en terre, semé ou planté. Puis, on peut aussi se faire un petit plaisir, là, puis planter la plupart des légumes feuilles. Alors, les kale, les laitues, les bok choy, les tout ça, okay. Ça peut être planté ou semé.
Okay. Justement, Jacqueline a une question par rapport au lieu où elle demeure. Bonjour, Jacqueline, je pense que vous êtes dans les cantons de l'Est.
C'est juste, oui. Oui. Je pense que vous avez répondu, là.
En partie, parce que...
À moins que ce soit différent.
Dans les cantons de l'Est, c'est sûr que c'est un petit peu moins... Il y a quelques degrés de différence, hein, quand même, par rapport à la région de Montréal, Rive-Nord,
ouais,
Rive-Sud, là.
Surtout en terrain montagneux, là. Si vous habitez en altitude, ben, il faut attendre là, à la fin de mai pour planter les tomates. Par contre, comme je le disais, betacarpe, laitue, bok choy, tout ça, ça peut être planté même dans la région de Sherbrooke, même dans la plupart des régions des
Vous vouliez planter quoi, vous, Jacqueline? Vous vous apprêtez?
Il y a les tomates, les poivrons, ça, je pense que c'est un peu tôt, les poivrons, mais les tomates, est-ce que...
Oui. Attendez quelques semaines encore. Là. Comme je vous ai dit, là, aux alentours du 25 mai, là, vous pourrez faire la plantation sans problème. Puis, n'oubliez pas, lorsque vous êtes en terrain montagneux, que ce soit dans les Laurentides, les Appalaches, les terrains sont souvent très sablonneux. Alors, il faut mettre beaucoup, beaucoup de compost quand vous plantez. Au moins une moitié de terre existante avec une moitié de compost puis de l'engrais aussi. Mm-hmm. Les tomates ont besoin d'être fertilisées. C'est vorace, une tomate. Là. Je les compare souvent à des ados. Là. Toujours pas loin du frigo. Hein, la main sur la poignée du frigo. Alors, il faut leur donner de la bouffe. Donc, un engrais riche en azote et en potassium. Le premier et le dernier chiffre élevé sur l'engrais. Puis, miser sur un engrais naturel en dégagement lent. Idéalement, là, si vous voulez faire une culture bio. Là.
Ah oui, puis ben évidemment, oui. Puis les tomates, tu dis, il faut les fertiliser à raison de quelle fréquence?
On va le faire une fois durant la saison, au moment de la plantation, avec un engrais granulaire qui va se dégager sur une longue période, là, c'est pendant plusieurs mois. Par contre, durant l'été, on peut apporter des suppléments. On va mettre donc 100 millilitres d'un engrais granulaire au printemps, donc quelques poignées, 3-4 poignées. Mm-hmm. Puis par la suite, durant l'été, au moment de la floraison, pour au début de la fructification, on va mettre des algues liquides. Alors les algues peuvent être mélangées à de l'eau, puis on vaporise sur le feuillage, c'est absorbé par la plante, par les feuilles. Et les algues vont favoriser la croissance, c'est-à-dire le développement des fruits, puis vont permettre aux fruits d'être plus sucrés aussi. Ça permet au sucre d'être déplacé des feuilles vers les fruits. Excellent pour faire sucrer des poivrons notamment. C'est très bon, les algues liquides.
Ah, OK. Merci de votre question, Jacqueline. Andrea est avec nous. Bonjour, Andrea.
Oui, bonjour, Madame Maréchal.
Bonjour.
Bonjour, Monsieur Mondor, ça me fait plaisir. Moi, j'ai un terrain de 110 pieds par 40 pieds, juste des fleurs du pays, puis des arbres fruitiers, et quelques vivaces, naturellement. Et je n'ai jamais réussi à manger un fruit parce que j'ai les écureuils, ils passent toujours avant moi. L'an passé, je regardais chaque jour, mon abricot, s'il était prêt à être mangé dans un arbre salade, prune et abricot. Et j'ai pas réussi à y goûter.
Ils sont vite, hein, les écureuils. Oui, oui.
Alors, je veux savoir quelle sorte de support, qu'est-ce que je peux faire pour manger surtout mes poires. Là. L'an passé, ma petite fille m'a dit, grand-maman, il y a 97 poires. En haut, il y en a d'autres que je compte pas. Je n'en ai pas mangé une.
Ça produit, en tout cas, au moins la production est bonne. Donc, votre sol est riche, ça ne manque pas d'éléments nutritifs, mais il faut absolument protéger les fruits, deux façons de le faire. La première, c'est de mettre un agrotextile. C'est pas très esthétique, ou un filet. Pas très esthétique, mais c'est à peu près certain que les écureuils pourront pas s'attaquer à vos fruits. Donc, l'agrotextile, c'est un voile blanc, là, qui n'empêche pas le soleil de passer, mais qui permet de protéger les fruits. Puis, vous l'attachez à la base de l'arbre. Il faut recouvrir toute la cime, puis l'attacher à la base de l'arbre pour éviter que les écureuils rentrent sous l'agrotextile. Si ça vous dérange là, d'avoir un voile blanc autour de votre arbre, ben mettez un filet, tout simplement, avec des mailles assez étroites, comme ceux qu'on utilise là, pour protéger les arbres contre les oiseaux. L'autre technique, c'est de mettre des répulsifs. Alors, il existe plusieurs répulsifs sur le marché, Plantkit, Bobex, notamment, qui sont très efficaces. Il faut en rajouter plusieurs fois. Donc, on fait une première vaporisation. 2-3 jours plus tard, on en remet. Après chaque pli, on en remet aussi. Et ça, vous faites ça dès que les fruits commencent à se colorer, là. Quand ils sont verts, en général, c'est pas vraiment nécessaire. C'est au moment juste avant que la coloration apparaisse, là. C'est là que c'est critique. Et je compatis, là, sérieusement avec vous parce que j'attendais les fleurs de mon magnolia il y a quelques jours. Et au moment où elles ont ouvert, elles sont écloses, les écureuils sont passés. Ça fait 3 ans que j'attends mes fleurs. À chaque année, ils me les bouffent. Cette année, c'est encore la même chose.
Ben, tu vois, Albert, ça nous rassure beaucoup. Tu sais, savoir que même Albert Mondeur a des problèmes avec ses fleurs ou certaines de ses plantes, on se sent moins niaiseux comme ça, Albert.
Ben oui, ben, Isabelle, j'en ai tué quelques fleurs. Hein. J'ai tué quelques plantes dans ma vie, puis j'ai perdu quelques plantes. Alors, ça fait partie des...
De l'apprentissage agricole.
Tout bon jardinier doit faire là,
exact.
Pour avancer.
Exact. Est-ce qu'on a le temps de parler à François vite? Parce qu'après la pause, je veux qu'on y aille bientôt parce que je vais à tout prix parler du mouvement, mais sans tondeuse. J'ai tellement de questions sur le gazon. Est-ce qu'on le coupe? Est-ce qu'on le coupe pas? Quand est-ce qu'il faut le faire? Et aussi sur les fameux pissenlits, là, c'est dans l'actualité ces jours-ci. Mais avant, il y a François qui a une petite question sur l'ail et les échalotes. François, c'est ça?
C'est bien ça. Moi, je demeure à Laval. J'ai une centaine de bulbes. Et puis, je me posais la question, est-ce que c'est trop tôt de planter ça comme aujourd'hui?
L'ail ben, et l'échalote, c'est ça?
Oui, c'est ça.
L'ail doit normalement être planté à l'automne, mais c'est tout à fait possible de le planter au printemps, mais à condition que les bulbes aient eu une période de froid. Donc, il faut acheter des bulbes, ou bien vous avez des bulbes qui ont subi une période de froid, ou bien vous achetez des bulbes d'ail qui restent là en magasin, parce qu'en général, il y en a très peu ou pas du tout au printemps. Puis, il faut qu'ils aient eu une période de froid. Mais vraiment,
de l'ail, c'est
l'automne.
Mais peux-tu, OK, à l'automne. Mais mettons, là, en ce moment, là, t'as un.
Oui, oui, on peut, à la rigueur, là, on peut acheter de l'ail bio en magasin. Oui. On le plante. Il va germer, là. Il va faire son cycle, là. Mais on n'aura pas une très grosse production. L'idéal, c'est d'acheter un ail qui a été préparé spécialement pour son. On en vend parfois au printemps, là. Il a été soumis à une période de froid durant l'hiver, mais c'est très rare.
Okay.
Mais pour ce qui est de l'échalote, elle, on peut planter au printemps, c'est possible. Surtout l'échalote de Sainte-Anne, qui est vivace, là, on peut faire une plantation en juin, ça fonctionne. Les échalotes françaises aussi, ça donne d'assez bons résultats quand on les plante au printemps. Mais pour l'ail, c'est toujours mieux à l'automne, mais vous faites quand même l'essai au printemps. vous allez avoir quand même quelques têtes d'ail et un peu de récolte à l'automne.
Oh, c'est tellement chouette. Des petits jardins d'herbes, là. Moi, j'adore ça. Ça agrémente tellement nos salades. On s'arrête ici. On va à la pause et au retour, vos questions sur le gazon. On le coupe quand? Pourquoi? On le laisse aller? On est écologique? Toutes ces questions à Albert Mondeur et d'autres, si vous en avez. À tout de suite, tout le monde.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer.
514-790-9850 si vous avez des questions sur le gazon, entre autres. Il y a Claude qui pose la question. Quel couvre-sol, Albert Mondeur, doit-on choisir pour remplacer le gazon? Albert?
Moi, j'adore et je préfère toujours avoir une pelouse diversifiée, c'est-à-dire qui contient non seulement des graminées à gazon, mais aussi d'autres plantes, surtout des plantes à fleurs pour attirer les abeilles.
Mm-hmm.
Donc, j'aime bien remplacer certains endroits où c'est un peu plus ombragé mon gazon par notamment du trèfle. Le trèfle ne tolère pas l'ombre totale, mais il tolère un peu d'ombre. Donc, avec à peine 3-4 heures d'ensoleillement, il va tirer son épingle du jeu puis il va être très joli, très beau.
Mm-hmm.
Alors, j'aime bien le trèfle qui fleurit, le trèfle blanc là, qui est un peu plus court, et on peut le tondre aussi. On peut aussi remplacer dans les zones ensoleillées par du thym, particulièrement dans les pentes ou là où c'est très sec.
Oui, oui.
Alors, le thym serpolais, notamment, là, fait un excellent travail.
Pourquoi? Qu'est-ce que ça dit de nous qu'on veuille vraiment des terrains gazonnés? Là? Il y a des gens là, qui travaillent fort pour que leur gazon ait l'air, leur pelouse ait l'air de celle d'un terrain de golf.
Oui, ça, c'est encore profondément ancré dans nos esprits.
Hein? Ouais.
Une belle pelouse verte, là, bien dense, bien dure, là, c'est synonyme de réussite sociale.
C'est hein? ça, hein?
Ça démontre qu'on a bien réussi, qu'on a atteint le haut de l'échelle. Là. Mais de plus en plus, je pense que les gens sont conscients que la pelouse manucurée demande d'abord beaucoup énormément d'entretien. Puis c'est malheureusement, là, c'est une monoculture. Alors, tôt ou tard, il va y avoir des problèmes. Donc, il faut intervenir avec des engrais, des pesticides. Donc, c'est très coûteux d'un point de vue environnemental, avoir une pelouse impeccable, bien verte. On peut arriver avec du compost, avec des sursemis aussi. Donc, on met du compost chaque année, puis on fait un sursemis, on ajoute des semences dans les endroits dégarnis. On peut arriver avec des techniques bio, avoir une pelouse qui a du bon sens. Mais moi, je préfère toujours avoir une pelouse bien diversifiée. Et durant le mois de mai, je ne la tombe pas. Je laisse les fleurs sortir, les pissenlits, je laisse les violettes fleurir parce que ça permet aux abeilles de trouver une bonne source de nectar au début de la saison.
Je voulais te poser la question justement, c'est le mai sans tondeuse, c'est ce fameux mouvement, donc tu y participes, Albert. Donc on laisse pousser notre gazon pendant tout le mois de mai.
Ben tout à fait, c'est un mouvement qui est particulièrement populaire dans le Canada anglais, mais là qui commence à devenir de plus en plus, qui fait de plus en plus d'adeptes là, au Québec aussi. Alors, c'est le mai sans tondeuse, le no-mow-mai.
Ouais.
Alors, moi, je participe absolument. Je ne tombe pas ma pelouse jusqu'à ce que jusqu'à la fin du printemps, parfois jusqu'à la mi-juin. Et de cette façon-là, ben, ça permet donc aux fleurs d'accueillir les abeilles.
Et ça
fait une pelouse qui est très jolie aussi. Des pissenlits, moi, personnellement, je trouve que c'est une très belle plante. Le pissenlit, je trouve ça beau. Je trouve ça joli.
Mais il y a le défi plus, pissenlit, ça a l'air aussi.
C'est à la vie sur Terre.
Oui.
Hein. C'est indestructible, un pissenlit.
Voilà. Est-ce que tu participes aussi au défi pissenlit, là, qui fait que on doit laisser pousser ces plantes, justement, pour les pollinisateurs dont tu viens de nous parler?
Oui, absolument. Ben, c'est un autre défi fort intéressant, effectivement, de laisser donc pousser, de laisser s'exprimer certaines plantes qui poussent de façon spontanée dans notre gazon puis qui vont fleurir. Alors, il n'y a pas que le pissenlit, il y a les violettes aussi. Le lierre terrestre, entre autres, qui est bien envahissant, mais qui est bien joli en fleurs puis qui sent très bon en plus. Alors, il y a toute une foule de plantes comme ça qu'on aurait intérêt à laisser dans nos pelouses pour la diversifier.
Voilà.
Il y a des moins susceptibles aux maladies puis aux insectes.
Mm-hmm. Ben, c'est parfait, ça. Merci beaucoup, Albert. Il y a Dominique qui me dit qu'elle va acheter des fleurs aussi pour nourrir les abeilles. Merci, Albert Mondeur, horticulteur. On se retrouve demain. Passez une bonne journée, tout le monde.